Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Bonjour à tous, Léopard, c'est le nom du char qui défrait la chronique cette semaine en Allemagne. Berlin serait en passe d'en vendre 200 à l'Arabie Saoudite. Nous irons aussi à Berlin pour visiter une exposition consacrée au marché de l'art sous le Troisième Reich. Et puis on terminera par un reportage sur la Trabant, la voiture star de l'ex-Allemagne de l'Est. Voilà ce qui vous attend cette semaine dans Allemagne Magazine. Bienvenue à tous, Constance von Kötze au micro. L'Allemagne serait en passe de vendre 200 chars de combat Léopard à l'Arabie Saoudite. Voilà un sujet qui a fait beaucoup de bruit cette semaine dans le pays. Mercredi, la question a été discutée devant la chambre basse du Parlement. L'opposition a sommé le gouvernement de s'expliquer sur ces tractations, chose que ce dernier a refusé de faire. La chancelière Angela Merkel ne s'attendait sans doute pas à une telle vague d'indignation. L'opposition au grand complet, mais aussi des membres du Parti conservateur et du Parti libéral au pouvoir, ont critiqué l'affaire conclue avec l'Arabie Saoudite. Outre la classe politique, des représentants de l'Église, des défenseurs des droits de l'homme et des grands quotidiens allemands ont également désapprouvé le contrat et pointé du doigt le silence persistant du gouvernement sur le sujet. Berlin n'a toujours pas confirmé officiellement l'information publiée en début de semaine par l'hebdomadaire Der Spiegel, mais entre-temps, des sources proches de la coalition ont affirmé que le Conseil fédéral de sécurité, un organe sous contrôle du gouvernement, avait bien donné son feu vert à la vente de 200 chars ultra sophistiqués au premier exportateur mondial de pétrole. Or, le Conseil en question a refusé pendant des décennies de vendre des armes au Royaume du Golfe. Hier, devant le Parlement, Hans-Joachim Otto, chargé des questions d'exportation d'armement pour le ministère de l'économie auprès du Parlement, a repoussé les attaques de l'opposition. Il a notamment parlé d'intérêts géostratégiques. L'Arabie Saoudite est considérée depuis longtemps comme un rempart face à l'Iran. Écoutez ce qu'en pense Rolf Mützené. Il est spécialiste des affaires étrangères au sein du Parti social-démocrate.
Cet argument n'est pas crédible à mes yeux. Dans cette affaire, je pense que ce sont avant tout des intérêts économiques qui sont au premier plan.
Pour l'industrie allemande de l'armement, le contrat est juteux. Les experts estiment que la vente de 200 chars pourrait rapporter plusieurs milliards d'euros. L'opposition accuse aussi le gouvernement de mettre en danger la crédibilité de l'Allemagne sur la scène internationale. Officiellement, la République fédérale se refuse en effet à vendre des armes à des pays qui sont en crise, qui ne respectent pas les droits de l'homme ou qui sont impliqués dans un conflit armé. L'Arabie Saoudite a participé à la répression de la révolte au Bahreïn en mars dernier. Les profits de l'industrie de l'armement, plus importants que le respect des droits de l'homme et le soutien au mouvement démocratique. Philippe Misfelder, élu conservateur, pense lui aussi qu'il ne faut pas oublier les intérêts stratégiques de l'Allemagne.
Si le gouvernement avalise cette décision, je pense que l'on peut le soutenir avec la conscience tranquille. C'est une décision en phase avec la réalité. Bien sûr, elle se heurte à la question des droits de l'homme, mais en fin de compte, c'est aussi de nos intérêts stratégiques dont il s'agit.
Oui, vraiment, même lorsque l'on considère comme l'opposition que l'Arabie Saoudite se trouve dans une zone à risque et que le contexte géopolitique de la région a changé du tout au tout ces derniers mois. Qui pourrait parier sur le fait que Riyad n'aura pas un jour recours aux chars allemands pour tirer sur sa propre population si elle venait à manifester pacifiquement comme en Égypte, en Tunisie ou en Syrie? Pour l'heure, le gouvernement se borne à rappeler que les décisions prises par le Conseil fédéral de sécurité sont strictement confidentielles et qu'il ne peut donner aucune information sur le sujet. Le débat autour de la restitution des œuvres d'art confisquées aux citoyens juifs sous le Troisième Reich fait toujours rage en Allemagne, plus de 60 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La preuve, le Centrum Judaicum, qui est le musée rattaché à la nouvelle synagogue de la capitale allemande, y consacre une exposition. Bonnes affaires, point d'interrogation, le marché de l'art à Berlin entre 1933 et 1945, c'est le titre de cette exposition. Le travail des chercheurs engagés par le musée a duré deux ans pour trouver environ 800 noms de marchands d'art et de commissaires-priseurs actifs sous le Troisième Reich. Les historiens ont découvert que les nazis avaient réussi, si l'on peut dire, à mettre hors circuit un tiers des négociants juifs entre leur arrivée au pouvoir et 1938, et donc avant même le début de la guerre. Pour autant, cela n'empêche pas la capitale allemande de faire d'excellentes affaires à cette époque, et pour cause, le réquisitionnement, la confiscation ou la vente forcée des biens appartenant à des citoyens juifs peut rapporter gros, sans compter que le sort réservé à ces derniers, l'exil ou la déportation, n'était pas de nature à inquiéter les marchands peu scrupuleux. L'exposition du Centrum Judaicum montre ainsi que le marché de l'art a profité à plusieurs égards de la persécution des juifs entre 1933 et 1945. Elle documente entre autres le destin de 14 négociants, celui de Bernhard Böhmer par exemple, l'un des rares marchands d'art à avoir obtenu une licence par le régime nazi, licence lui permettant officiellement de continuer à acquérir et à vendre des œuvres modernes, celle-là même qui était mise à l'index par les nazis. Christine Fischer-Defoy est commissaire de l'exposition.
Böhmer était l'ami du sculpteur Ernst Barlach. Grâce à sa licence, il a pu à la fois profiter du commerce des œuvres de son ami, des œuvres considérées par les nazis comme dégénérées. Mais il a aussi pu en sauver certaines du triste sort que leur réservait le régime, à savoir la destruction.
Le sauvetage de l'art, un objectif invoqué par certains qui, après-guerre, se sont vus reprocher d'avoir fait de trop bonnes affaires pendant les années sombres. Autre destin mis en lumière par l'exposition, celui du galeriste Alfred Flechtheim, qui marchandait de l'art moderne et qui était lui-même d'origine juive. Il fuit l'Allemagne en 1933, laissant sa femme à Berlin avec leur collection d'œuvres d'art. Le couple espérait, comme beaucoup d'autres, qu'Adolf Hitler ne resterait pas longtemps au pouvoir.
Et finalement, Madame Flechtheim n'a pas réussi à quitter l'Allemagne à temps. Son mari est décédé en 1937 à Londres. Elle est restée seule à Berlin avec une partie de la collection. Elle s'est suicidée la veille de sa déportation. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenues les œuvres d'art.
Le musée s'intéresse également à l'après-guerre et aux différentes actions entreprises par les gouvernements allemands pour récupérer les œuvres désormais éparpillées aux quatre coins du monde. L'exposition dure jusqu'au 31 juillet. Le 30 avril 1991, à 14h51, la dernière Trabant sortait de l'usine de Zwickau dans l'ex-Allemagne de l'Est. Une Trabant rose bonbon sur laquelle était écrite une légende sur roue. La petite voiture de RDA surnommée le carton de course ou encore le bombardier en plastique qui est devenu le symbole de la liberté lors de la chute du mur. Une part d'histoire que se réapproprient désormais les touristes. Le reportage à Berlin d'Audrey Parmentier.
Les Trabants sont de plus en plus nombreuses dans les rues et elles font de plus en plus d'adeptes. C'est ce qu'explique ce film publicitaire qui date de 1960, trois ans après la fabrication de la première Trabant, appelée affectueusement Trabi. Entre-temps, l'usine de Zwickau en a produit très exactement 3 051 385 exemplaires. Jusqu'à ce triste jour d'avril 1991 où la dernière est sortie de la chaîne de montage. L'objectif était alors de créer une petite voiture économique, robuste et sans fioritures, comme l'explique Ole Katlun. Il travaille dans un bureau de location de Trabant à Berlin.
Tout est très simple dans la Trabi. Il y a très peu d'électronique et beaucoup de mécanique. Elle a 26 chevaux, ce qui est une particularité en soi par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Un moteur à 2 cylindres, ce qui est aussi extrêmement rare de nos jours. Elle ne peut contenir que 4 personnes, n'a pas de frein moteur, mais des freins à tambour comme sur un vélo. Et puis sa construction n'a pas évolué depuis 1965, et ça se voit aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Devant le bureau de location sont exposés 4 Trabants, une bleue et 3 jaunes, et les touristes sont nombreux à venir se faire photographier devant les voitures devenues légendaires, mais ils ne sont pas les seuls à en louer, comme l'explique Ole Katlun.
C'est très varié, mais il y a essentiellement 2 groupes, les touristes et les gens qui viennent de l'Est et qui avaient une Trabant. Pour les touristes, c'est une première. Ils veulent essayer cette voiture, ils viennent de l'étranger ou d'Allemagne de l'Ouest. Tandis que les anciens citoyens de la RDA veulent retrouver les sensations qu'ils avaient à l'époque. Les deux groupes se partagent les voitures.
Si avant la chute du mur, les Allemands de l'Est étaient les seuls à conduire des Trabants, la voiture est devenue un symbole de liberté en 1989. Le 9 novembre, beaucoup d'entre eux sont en effet passés à l'Ouest au volant du Bombardier en plastique, qui est devenu la coqueluche des médias et également des Allemands de l'Ouest. Knut Kulser est né à Wismar, dans le nord-est de l'Allemagne, en 1975. Il se souvient des Trabants que possédait sa famille. Ils en ont eu 7 au fil des années, toutes baptisées Egon.
Ce qui me plaisait tout particulièrement dans la Trabant, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'était les gaz d'échappement. Je me souviens d'une odeur douceâtre qui était très agréable. Son bruit, en revanche, pouvait vite me contrarier, mais l'odeur était vraiment plaisante.
Cette odeur, c'est celle de l'essence consommée par la Trabant, un mélange d'essence et d'huile dans une proportion de 1 à 50 qui n'est désormais presque plus vendue telle quelle. Ole Katloun.
Il existe encore 3 stations d'essence à Berlin qui vendent ce mélange, mais elles sont assez excentrées. Ça nous revient moins cher de faire notre propre mélange. Nous allons à la station avec 1 litre d'huile et nous mélangeons.
Le bureau de location doit également demander une autorisation spéciale pour que les Trabants puissent rouler dans les zones de circulation verte de Berlin, le mélange étant tout sauf écologique. Mais une nouvelle Trabi est en préparation, la NT ou New Trabi, qui pourrait voir le jour en 2012. Ole
Katloun. Oui, j'en ai entendu parler, une Trabi électrique. Bon, s'ils arrivent à la fabriquer, pourquoi pas, mais une Trabante qui se respecte doit sentir mauvais.
Sentir mauvais et surtout faire du bruit, la Trabi est en effet reconnaissable entre toutes les voitures à son moteur à explosion pétaradant. Un bruit qui n'empêche pas de nombreux Allemands de collectionner les Trabants. Il existe même des fan clubs et un groupe sur Facebook qui vise à réhabiliter la petite voiture.
La Trabi, petite star à 4 roues, c'est avec elle que nous nous quittons. Merci à Christiane Kort et Nina Werkhäuser pour les éléments sonores et à Jürgen Kuhn qui était aujourd'hui aux manettes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Allemagne Magazine et très bonne suite de programmes sur les ondes de la Deutsche Welle.